RMB, question d'actualité.
RMB matin, 7h16, on retrouve Cédric et son invité.
Pédiatrie urgence, investissement sur du matériel et des projets pour améliorer l'offre de soins et l'attractivité de l'établissement pour les médecins. On parle de l'hôpital de Montluçon aujourd'hui avec son directeur délégué Guillaume Allègre. Bonjour.
Bonjour.
Bon, donc, petite présentation pour débuter. Donc, vous venez là, juste avant, du CHU de Clermont-Ferrand. Vous étiez aux affaires médicales. Racontez-nous un peu votre parcours, en fait. Vous êtes de la région, peut-être?
Oui, tout à fait. Ouais. Je suis auvergnat. Je suis originaire de la ville de Thiers. Donc, j'ai 43 ans maintenant. J'ai démarré ma carrière en 2005, maintenant, à l'hôpital d'Aurillac. Puis, j'ai pris la direction des hôpitaux de Thiers et Ambert. Et puis ensuite, pendant 9 ans, je me suis occupé des affaires médicales et puis aussi du pôle urgence du CHU de Clermont-Ferrand. Et c'est dans ce cadre, finalement, que j'ai eu à rencontrer les difficultés de Montluçon dans le cadre de la direction commune qui s'est installée il y a maintenant 2 ans, notamment pour la question, comme vous l'évoquiez, du recrutement médical.
Ouais, c'est ça. Vous étiez en lien avec le directeur délégué, votre prédécesseur Patrice Beauvais, sur la question du recrutement. Du coup, vous avez pu travailler sur ce sujet-là et puis commencer à chercher notamment des praticiens.
Tout à fait. On avait un partage de rôles. Hein. Patrice Beauvais s'occupait de toute la gestion concrète et pratique de l'hôpital de Montluçon et moi j'étais plus là pour l'aider et aider à trouver des praticiens. On avait deux priorités, c'était la pédiatrie et les urgences. C'était ce qui avait beaucoup motivé la direction commune il y a 2 ans. Ensuite, il faut absolument pas exclure, on ne ferait rien sans le soutien des professeurs d'université du CHU de Clermont-Ferrand, hein, tant le professeur Merlin que le professeur Schmitt au niveau des urgences. C'est ce qu'on a fait. On a cherché d'abord en dépannant le plus possible jour après jour, on va dire, puis en essayant de partager des praticiens. Ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'assistants partagés, des praticiens associés partagés. Et enfin, c'était l'objectif, installer des personnes au niveau de Montluçon, ce qui est en train de se faire, très progressivement, mais ce qui est en train de se faire.
Oui, justement, hein, ça colle à l'actu. Donc, les pédiatres, il y en a 2 qui arrivent. Donc, un qui est déjà là et sa femme qui arrive début d'année, c'est ça?
Tout à fait. On a eu 2 recrutements qui sont 2 très bonnes surprises qui viennent renforcer le seul praticien senior qui était temps plein chez nous, accompagné d'un autre praticien qui est plus temps partiel. Alors, il faut bien voir que le service, il tenait malgré tout avec toute l'aide qu'apporte le CHU régulièrement avec des temps partagés. Mais c'est important pour le service des praticiens, temps plein dans le service, pour tout ce qui est qualité, fonctionnement, sécurisation. Et donc, ce sont des recrutements extrêmement intéressants. Le premier praticien est arrivé. Le deuxième devrait le suivre début janvier, avec des profils solides, notamment très tournés vers tout ce qui est soins critiques néonatologie, ce qui était l'élément qui nous manquait un petit peu dans les surspécialités, la panoplie qu'on avait aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, un très bon signe sur la capacité de Montluçon à attirer des praticiens.
Le fait qu'ils aient des spécialités, c'est pareil, ça rajoute aussi un petit peu, ça fait de l'offre de soins plus large en fait, et puis ça peut aussi attirer, pourquoi pas, d'autres collègues à eux.
Exactement. Au fur et à mesure, la médecine a tendance à se spécialiser, la pédiatrie également, donc il y a des surspécialités de pédiatrie. Et un jeune pédiatre, il va exercer normalement, mais il va vouloir exercer sa surspécialité, c'est normal. Ça crée de l'attractivité d'être en capacité dans une équipe, d'être positionné sur sa surspécialité. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a plutôt la chance d'avoir des recrutements assez complémentaires les uns et les autres. Ce qui veut dire qu'effectivement, pour recruter des personnes supplémentaires, c'est plutôt bien, parce qu'il y a une sécurité, parce qu'ils ont des collègues surspécialisés de certains domaines, et en même temps, il y a la capacité à se concentrer sur sa propre spécialité, et donc avoir une sorte d'épanouissement au travail qui soit meilleur. Donc c'est sur ça qu'il faut essayer de jouer pour être attractif, et pour l'instant, on a plutôt des profils très complémentaires, ce qui est intéressant pour l'avenir de l'équipe. Alors après, rien n'est jamais garanti, c'est compliqué, c'est toujours fragile, mais c'est plutôt de très bons signes.
Bon, pour le personnel également, hein, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, c'est sûr que c'est rassurant là, d'être encadré par des praticiens en renfort.
Oui, c'est sûr. Puis ça donne de la cohérence aux pratiques, hein, plutôt que de changer de référent très régulièrement. Hein. Donc ça, c'est vraiment positif. Après, c'est comme toute équipe. Il faudra qu'ils se rencontrent, il faudra que le fonctionnement se mette en œuvre. Hein. Ça, c'est assez logique. Mais je pense que ça va rassurer tout le monde, que c'est un bon signe. Et comme vous avez dit, les gens se sont montrés quand même très résilients dans une période très complexe. Il faut arriver à enchaîner derrière avec des gens qui vont amener une nouvelle dynamique. Donc, ce n'est pas toujours simple d'enchaîner la résilience avec une transition vers quelque chose de dynamique et de différent, mais c'est un meilleur défi que de devoir faire face à la pénurie ou au manque.
Bon, pour les usagers maintenant, les patients, bah, on peut dire que la pédiatrie, logiquement, en 2025, il n'y aura plus trop de soucis d'accueil, que tous les rendez-vous pourront être honorés. Les urgences pédiatriques aussi, il n'y aura pas trop de soucis et un fonctionnement limité comme on a pu le voir ces dernières années.
Alors, globalement, les urgences pédiatriques, jusqu'à présent, pour pouvoir les atteindre, il faut passer par le 15. Alors, attention, passer par la régulation, donc le numéro 15, pour accéder aux urgences, c'est un petit peu la bonne pratique qui est souhaitée partout aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a des pédiatres, pour autant, ce n'est pas, on va dire, une plage ouverte à tout problème sans qu'il y ait une régulation préliminaire. Alors, il est possible peut-être qu'on s'en détache au fur et à mesure, et pour l'instant, on continue à appeler le 15 avant d'accéder aux urgences pédiatriques. Par contre, l'accès à un pédiatre H24, présent, sur place, compétent, ça, c'est garanti. Donc, ça veut dire qu'on sécurise la prise en charge de la population. Ça ne veut pas dire remplacer ou relayer le rôle du médecin généraliste. Après, c'est des questions qu'on pourra se poser avec un effectif suffisant. Enfin, par rapport à ce que vous mentionnez, on continue à être sur un appel préalable à la régulation.
Bon, pour l'autre service en tension, les urgences, comment ça se passe aussi? C'est pareil, cette année, il y a eu un peu du mieux. Hein. On n'a pas eu de fermeture ou peu de fermeture temporaire au niveau de l'accueil cet été. Donc, voilà, ça va se poursuivre là, logiquement?
Logiquement, oui, puisqu'on a l'effectif nécessaire pour pouvoir faire face. Pareil, hein, quand on a l'effectif nécessaire, c'est un mélange entre l'attractivité qu'on peut avoir, des partages de temps de praticiens, des praticiens qu'on appelle associés, donc qui sont à diplôme étranger, qui sont en cours de formation. Donc, c'est ça qui nous a permis de ne plus fermer. Donc, il faut prendre le temps de bien consolider ce fonctionnement-là. Mais là, les tableaux de service qu'on projette sur les 2 mois, 3 mois qui viennent sont complets. Donc, ça veut dire.
Pour les fêtes de fin d'année, normalement.
Pour les fêtes de fin d'année, par exemple, c'est complet, ce qui est un critère important, parce que les médecins ont aussi le droit de prendre leurs vacances. Donc, forcément, c'est des moments un petit peu plus tendus, mais on arrive à faire face. Donc, l'effectif médical des urgences, c'est bien remonté. Encore une fois, comme partout, ça reste relativement fragile. Donc, en fait, il faut bien être vigilant à la continuité des coopérations, à la continuité de l'attractivité. Mais on a quelque chose qui s'est consolidé, avec une activité qui, du coup, a repris plein pot hein, au niveau des urgences adultes, hein, puisqu'on est. On accueille, on va dire, de 100 à 110 patients par jour, par 24 heures, et qu'on a beaucoup augmenté, du coup, l'accueil des patients par rapport à il y a un an ou deux. Et même par rapport, quand on se compare à 2019, on accueille plus de patients aujourd'hui.
Bon, les gens, les usagers, hein, se plaignent forcément, comme souvent dans les hôpitaux et autres, de l'attente, du manque de lits, du manque de praticiens. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, là, en quelques secondes, pour tenter de rassurer? On essaye d'arranger les choses, tout simplement. Puis, il n'y a pas que la volonté locale, il y a aussi la politique nationale, j'imagine.
Oui, alors globalement, la difficulté qu'il faut imaginer, hein, c'est qu'il n'y a pas de régulation de l'effectif médical sur le territoire. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'y a pas de garantie, c'est qu'il y a une liberté totale d'installation, ce qui rend finalement les effectifs médicaux éventuellement un tout petit peu changeants avec le temps. Ouais. Donc, ça peut impacter des délais d'attente. Alors, aujourd'hui, sur Montluçon, si on se concentre uniquement sur le territoire, on a plutôt quand même des bonnes nouvelles. On a des effectifs de spécialité plutôt solides, hein, comme la neurologie, comme la cardiologie, comme l'oncologie, l'hématologie. Après, on a aussi la difficulté de voir des patients de Montluçon venir, mais aussi des patients de la Creuse, aussi des patients du Cher. Donc, en fait, on a plutôt une augmentation d'activité et plus de patients qui demandent des avis. Et donc, par rapport à ça, on aura toujours cette difficulté d'attente. Alors après, on essaie de structurer, de recruter, d'organiser aussi des choses pour donner des délais d'attente qui soient convenables et surtout... Avec le CHU, on va essayer de bien travailler sur le parcours du patient, histoire que le patient sache bien à qui s'adresser dans un premier temps pour avoir une réponse à son besoin.
Oui, encore beaucoup, beaucoup à dire. Forcément, on vous réinvitera. Juste un mot sur les projets. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à annoncer? On sait qu'il y a eu en dermatologie du matériel, de pointe, on en a parlé. Il y a le TEPSCAN aussi, les projets sur l'EHPAD. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur les semaines à venir, les mois à venir pour l'hôpital?
Globalement, pour l'année prochaine, on va avoir une deuxième table de coronarographie hein, qui va arriver à partir de septembre parce qu'on a une activité telle qu'il faut dédoubler les tables. On a la TEPSCAN qui a très bien avancé, qui est prévue pour juin 2026 et qui est complètement dans les clous.